sur la situation militaire. Nous avons aujourd'hui comme invité à cette conférence M. Mustapha Soumaré, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire du système des Nations Unies en RDC, intervenant à partir de Kinshasa. Il va nous faire le point sur la situation humanitaire en RDC. Nous avons également le général Jean Bayo, commandant adjoint de la force de la MONUSCO, qui interviendra à partir de Goma. Activité des composantes de la MONUSCO, genre, le bureau genre de la MONUSCO Bounia a participé jeudi dernier à la réunion d'analyse du plan de contingence de la MONUSCO en Ituri suite au processus de reddition des éléments du FRPI, le Front de Résistance Patriotique de l'Ituri. Selon diverses sources, les miliciens de FRPI et leurs dépendants, dont des femmes et des enfants, sont déjà rassemblés à Aveba, attendant leur éventuelle adhésion au processus DDR, n'ont plus d'assistance alimentaire et logistique. Il est finalement recommandé, entre autres, que les différents aspects du plan de contingence, tel qu'établi par diverses sections de la MONUSCO Bounia, tiennent compte des spécificités des femmes et des enfants comme dépendants et femmes comme combattantes, en ce qui concerne les abris pour l'accueil qui sont séparés des combattants hommes. La prise en charge alimentaire et médicale tient compte des besoins spécifiques des femmes et des enfants, la présence du personnel soignant féminin pour les femmes et jeunes filles, probables victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Le plaidoyer auprès de la 32e région militaire des FRDC et autres autorités pour identification des femmes et leurs enfants, la collaboration avec partenaires pour assurer la prise en charge holistique et l'organisation des interviews avec les femmes ex-combattantes, épouses et jeunes filles pour faciliter le retour volontaire à leur localité d'origine et leur réintégration. Le 11 décembre 2015, la section genre de Kisangani a sensibilisé un groupe de 22 étudiantes, dont 5 filles, sur les violences sexuelles et la vulgarisation des lois sur les violences sexuelles. L'objectif de cette session de sensibilisation était de répondre aux préoccupations des étudiants par rapport aux violences sexuelles et celles basées sur le genre et de mettre à leur disposition des outils nécessaires pour une meilleure compréhension des questions du genre et surtout des lois sur les violences sexuelles. Nous passons maintenant le micro à Geneviève Delannoy pour les informations sur le développement. Geneviève.
Merci Carlos, bonjour à tous, bonjour à Goma. Tout d'abord, nous commençons avec l'UNESCO. La directrice générale de l'UNESCO vient d'effectuer une visite à Kinshasa. Outre ses rencontres avec les plus hautes autorités du pays, Madame Irina Bokova a procédé hier 16 décembre 2014 au lancement d'un projet sur l'amélioration de la formation continue des enseignants de la RDC. Ce projet, qui est financé par la Chine, est exécuté aussi dans plusieurs autres pays africains. La directrice générale de l'UNESCO a ensuite conféré avec les élèves, les parents et les enseignants du primaire à l'école ONL1 dans la commune de Kazavubu, avant de rencontrer dans l'après-midi des étudiants dans l'amphithéâtre de l'université protestante au Congo. Cette rencontre a eu lieu en compagnie de l'honorable Gordon Brown, ancien premier ministre britannique et actuellement envoyé spécial de l'ONU sur l'éducation mondiale. À cette occasion, Madame Bokova, qui a pris part à Libreville au forum panafricain « Jeunesse et culture de la paix » avec pour thème « La jeunesse africaine et le défi de la promotion d'une culture de la paix en Afrique », a exhorté les jeunes de la RDC à se joindre à la grande mobilisation de l'ensemble des jeunes pour la création d'un réseau de la jeunesse pour la culture de la paix en Afrique. Madame Bokova a dit, je cite, « Pour que la contribution de la jeunesse soit décisive, l'UNESCO plaide pour que cette jeunesse soit reconnue comme partenaire de premier plan et agent du changement. Les jeunes, hommes et femmes, doivent être associés réellement au processus décisionnel à tous les niveaux et avoir accès à des espaces démocratiques où ils participeraient activement en tant que citoyens. » Fin de citation. Le PNUD à présent. En Ituri, province orientale, les préparatifs du début de l'opération de marquage des armes en République démocratique du Congo à Bounia vont commencer. Cette opération est la réponse de la RDC dans la mise en œuvre de la recommandation du comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créée par la résolution 1533 en 2004 concernant la RDC et qui stipulait de mener à bien le marquage de toutes les armes que détiennent la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, conformément au protocole de Nairobi pour la prévention, le contrôle et la réduction des armes légères dans la région des Grands Lacs et la Corne de l'Afrique. Le gouvernement congolais a donc décidé de débuter le marquage des armes détenues par l'État et d'autres armes provenant d'opérations de désarmement. Le gouvernement a estimé utile de réintégrer ces armes dans le circuit de la chaîne de défense, bien entendu après les avoir marquées, pour garantir leur traçabilité. 5 experts des FARDC, 7 experts de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre, CNCALPC, et 1 expert du PNUD sont commis à cet exercice qui débutera à Bunia sous la supervision de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petit calibre et de la réduction de la violence armée avec l'appui du PNUD. Le processus se poursuivra à la base logistique centrale des FARDC à Kinshasa, où 4 bailleurs, USA, Allemagne, Australie et PNUD, ont déjà appuyé les phases préalables des dites opérations, à savoir la formation, le développement de la base de données unique et les équipements.
Merci beaucoup. Maintenant, c'est le colonel Félix Basse, porte-parole militaire, qui va nous faire le point sur la situation sécuritaire.
Merci Carlos, bonjour à tous. Donc nous démarrons ce point de situation par l'ouest de la République démocratique du Congo, où la situation a été jugée stable durant la semaine écoulée, toutefois imprévisible. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises ainsi que les troupes du commandement unifié pour l'Afrique du département de la défense des États-Unis, AFRICOM, poursuivent avec vigueur la conduite de leurs 4 opérations visant à la neutralisation des éléments résiduels de l'armée de résistance du Seigneur LRA dans les districts de Haut et de Bawele. En Ituri, les négociations entre les autorités congolaises et les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI se poursuivent dans le cadre de leur reddition volontaire. Toutefois, des exactions commises par ces éléments continuent d'être rapportées dans cette partie du territoire. En effet, selon des sources basées à Bukiringi, des miliciens du FRPI ont fait incursion dans la localité de Bourassi, c'est environ 54 km au sud de Bukiringi, et pillé 53 vaches. La force de la MONUSCO et l'armée gouvernementale ont à cet effet renforcé leurs effectifs et intensifié la conduite de leurs patrouilles dans la région afin de dissuader toute exaction contre les populations locales et assurer leur protection. Par ailleurs, le 11 décembre 2014, des hommes armés appartenant au groupe Mai Mai Simba aux ordres de Magavibou et de Manou, pour rappel Magavibou c'est le frère de Paul Sadala alias Morgan, donc ces Mai Mai Simba ont attaqué puis occupé le site minier de Mouchacha situé à 65 km au sud-ouest de Badengaido qui est lui-même à 105 km à l'ouest de Mambasa Centre où des pillages et des viols ont été aussi commis. Le kidnapping et la détention d'environ 50 commerçants par ce groupe armé ont également été rapportés. Les unités de la force de la MONUSCO déployées à Mambasa Centre sont placées en alerte maximale et mettent des patrouilles afin d'interdire toute incursion des Mai Mai Simba et protéger les civils. Au Nord Kivu, l'activisme des rebelles ougandais de l'Alliance des Forces démocratiques ADF dans le territoire de Beni demeure une préoccupation sécuritaire majeure pour les casques bleus et les forces de défense et de sécurité congolaises. Cette situation rend le climat sécuritaire tendu, volatile et imprévisible dans cette région suite aux exactions perpétrées contre les populations civiles. Toutefois, il reste sous le contrôle et des efforts conséquents sont à cet effet conjointement menés pour neutraliser ces forces négatives. Ainsi, du 8 au 15 décembre 2014, 14 individus ont été tués, 3 blessés et 2 autres pris en otage par des rebelles supposés appartenir à l'ADF au cours d'attaques lancées contre 4 localités du territoire. L'armée congolaise, soutenue par la force de la MONUSCO, poursuit avec détermination la conduite de l'opération Sukola 1 dans le but de mettre un terme à ces atrocités. C'est dans ce cadre que le samedi 13 décembre 2014, une opération conjointe MONUSCO-FRDC, dénommée Umoja, en d'autres termes Unité, a été lancée dans la région d'Erengeti pour traquer et neutraliser les éléments présumés de l'ADF, auteurs de nombreux massacres dans cette région. Dans le territoire de Masisi, Des opérations de bouclage et de ratissage sont vigoureusement menées dans la localité de Karunda, à 15 km au nord-est de Masisi Centre, où plusieurs armes et munitions détenues illégalement par un chef rebelle du groupe Maïmaï Rahia Mutomboki ont été récupérées par les FRDC. Dans le territoire de Lubero, le 10 décembre 2014, 24 éléments Maïmaï du groupe de l'Union des Patriotes Congolais pour la paix UPCP ont été tués en Douali, ceci à 36 km au sud-est de Lubero Centre. Deux soldats et un garde forestier ont été blessés et 7 armes récupérées suite à une embuscade tendue contre une patrouille mixte FRDC, ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, sur l'axe Kianika-Kamandi. Les statistiques révèlent qu'à ce jour, 821 individus comprenant 190 ex-combattants des FDLR, 153 femmes et 478 enfants ont été transportés vers le camp de transit Général Bahouma à Kisangani. Au sud Kivu, les forces congolaises et la force de la MONUSCO poursuivent leurs opérations visant à éradiquer les groupes armés dans cette province. Le 13 décembre, deux éléments Rahia Mutombo qui ont été tués et d'autres blessés au cours d'accrochages avec les FRDC dans la région de Kilembwe. Le même jour, selon des sources de la section désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réintégration DD3R, le chef rebelle du groupe Maïmaï Rahia Mutomboki, dénommé Mwami Alexandre, a été tué avec deux de ses éléments au cours d'accrochage avec des troupes FRDC dans le village Katupu, situé dans la localité d'Ikema, 18 km au nord-est de Kilembwe, dans le territoire de Walungu. Au Katanga, la province a connu une instabilité relative pendant la période sous examen du fait des activités négatives contre les populations locales perpétrées par les rebelles des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, les éléments du groupe Maïmaï Bakata Katanga ainsi que ceux du chef rebelle Yakutuba. Toutefois, les forces onusiennes et congolaises dominent le terrain et maintiennent l'environnement sécuritaire sous leur contrôle. Le secteur 2, quant à lui, est calme. Et enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles, nous en avons mené 1427 armées, dont 446 nocturnes, et avons fourni 37 escortes pendant la période sous examen. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, colonel Bass, pour ces informations militaires. Avant de passer à la séance de questions-réponses, je vais donner la parole à Moustapha Soumaré, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordinateur humanitaire du système de l'ONU en RDC, qui est ici avec nous à Kinshasa, pour nous faire le point sur la situation humanitaire et nous tracer un peu les perspectives pour 2015 ici en RDC.
Merci Carlos et merci pour cette opportunité. Vous venez d'entendre le briefing sécuritaire qui vient d'être fait par le porte-parole militaire et qui a démontré un peu l'activisme de tous ces groupes armés. Et vous savez aussi que cet activisme a un impact sur les populations et sur le déplacement des populations. Et c'est ça qui fait que je voulais un peu, les trois minutes que j'ai pour introduire, vous parler un peu de ce qui a été fait au niveau humanitaire et où est-ce que nous en sommes actuellement. Comme vous le savez, actuellement, selon les chiffres que nous avons, au cours de toute cette année, ces dernières années, il y a eu à peu près 2,7 millions de personnes déplacées internes. Simplement pour le mois de juillet, il y a eu environ 261 000 déplacés internes. La plupart de ces personnes déplacées, fort heureusement, sont aussi accueillies par ce qu'on appelle les familles d'accueil. Et vous savez, ces familles d'accueil aussi ne sont pas toujours dans des conditions très favorables. Donc, malgré le sacrifice qui est fait, ça met quand même de la pression sur ces populations. Et c'est ce qui fait que dans les interventions que les humanitaires font, nous mettons aussi bien l'accent en soutenant les gens qui vont éventuellement dans les camps, mais aussi nous essayons de faire en sorte que l'approche puisse être aussi l'appui aux familles hôtes. Et ça, c'est absolument important. Du point de vue des défis que nous avons rencontrés au cours de l'année, je crois que c'est absolument important. C'est vraiment cet activisme dont le porte-parole vient de parler, qui a fait que vraiment il y a eu beaucoup de personnes qui sont déplacées. Et il y a eu en fait beaucoup d'accidents, même sur les humanitaires, parce que comme vous le savez, les humanitaires sont quand même dans des zones pas toujours faciles. Et par exemple, seulement au cours de l'année 2014, nous avons enregistré à peu près 188 incidents, et vous savez, on a perdu 6 humanitaires, nationaux et internationaux, par le travail qu'ils étaient en train d'effectuer. Deuxièmement, le travail n'est pas toujours facilité par ce que j'appelle aussi l'accès. Souvent, l'état des infrastructures ne favorise vraiment pas le travail humanitaire. Alors, du point de vue de ce qui a été réalisé en 2014, qu'ils vous souviennent, quand nous avions lancé le plan d'action humanitaire l'année passée, nous avions fait une demande auprès de la communauté humanitaire internationale d'environ 832 millions de dollars, pour lesquels nous avions eu une réponse positive réelle d'environ 563 millions de dollars, ce qui fait à peu près quand même un financement d'à peu près 67%. Ceci donc a permis d'entreprendre des activités aussi bien dans le cadre de la sécurité alimentaire, dans le cadre aussi de l'eau, hygiène, assainissement, mais dans l'éducation et aussi dans la santé. Qu'ils vous souviennent que quand il y a eu la crise Ebola, parmi les premiers financements qui ont été faits, ça a été fait sur le Pool Fund, où le Pool Fund a donné à peu près quelque chose comme 4,5 millions de dollars pour aider le gouvernement à entreprendre cela. Alors, pour 2015, nous sommes en train de travailler. Comme l'approche sera comme l'approche qui a été faite l'année passée, c'est-à-dire que ce ne sera pas une approche géographique per se, mais ça va être plus une approche par crise. Et nous avions identifié avec le gouvernement quatre crises, en fait, domaine de crise principale, c'est-à-dire les conflits armés, donc ce qui se passe actuellement à l'Est. Il y a les aspects de la malnutrition, parce qu'il y a quand même une population importante de la population qui est affectée par ce fléau. Il y a tout l'aspect des épidémies. Vous savez, on a pu réagir à l'Ebola parce qu'aussi on avait pu avoir des ressources pour ça. Et aussi les catastrophes naturelles. Vous avez vu cette année, il y a eu quand même une sorte de croissance du point de vue de l'approche. Alors pour 2015, les besoins financiers sur lesquels nous sommes en train de travailler s'élèvent environ à 692 millions de dollars et pour lesquels nous pensons que nous allons aussi faire vraiment cet appel avec le gouvernement à partir de l'année prochaine et nous espérons que les partenaires financiers, surtout humanitaires, qui jusqu'ici ont fait ça, ont pu faire ça. Le dernier point sur l'humanitaire sur lequel je voudrais parler, j'ai eu une mission avec toute l'équipe humanitaire. Vous savez, l'équipe humanitaire ici est composée non seulement des agences du système des Nations Unies qui s'occupent des crises en général, mais aussi des bailleurs de fonds et de certains partenaires qu'on appelle les partenaires de mise en œuvre, les ONG. Et nous étions partis à Goma parce qu'il y avait eu la décision de la fermeture des camps au niveau du site Kivu en général. Vous savez, il y a à peu près une trentaine de camps qui sont là-bas. Seulement autour de Goma, il y a à peu près 6 camps. L'idée de cette mission, ce n'est pas du tout d'aller discuter la décision souveraine qui a été prise par le gouvernement. C'était simplement pour aussi apporter au gouvernement l'appui des humanitaires pour que la fermeture des camps se fasse selon les règles humanitaires internationales. Et je puis dire ici que nous avions eu des rencontres importantes avec le gouvernement et puis les autorités provinciales, mais aussi avec la communauté humanitaire, où nous les avons rassurés véritablement de notre collaboration dans ce sens pour que nous puissions éviter ce qui s'était passé à Kiwanja et qui a été d'ailleurs pris par toute la presse. Donc je m'arrête là, je parle bien sûr de l'humanitaire, mais je suis aussi le représentant spécial adjoint. Je serai aussi disponible pour quelques questions que vous voudrez bien poser pendant que je suis là avec vous.
Merci beaucoup.